Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et plus sérieusement, notre invité ce matin est Gwenolé Bourré. Il est militant de la France insoumise et il est avec nous en direct au micro de Bretagne 5 matin. Je l'en remercie, vous êtes venu de Rennes spécialement pour être avec nous ce matin. Bonjour.
Oui, bonjour Stéphane Hamon.
Alors on va parler de politique, alors un peu plus sérieusement que ce qu'a pu faire Christophe Hamon tout à l'heure dans sa chronique. Un complément de remaniement, qu'est-ce que vous en pensez?
Bah écoutez, moi je rejoins plutôt ce qui a été dit dans cette chronique, c'est-à-dire effectivement on a des pots de fleurs qu'on change mais qui sont toujours là, on a toujours le même jardin finalement, et effectivement le problème c'est que la politique du gouvernement ne change pas. On a un Premier ministre effectivement qui a fait un discours de politique générale sans même demander un vote de confiance au Parlement. Mmh. Ce qui, normalement, dans la Ve République, est quelque chose qui est plutôt communément admis. Et donc aujourd'hui, on a un gouvernement qui est minoritaire et qui, aujourd'hui, n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Effectivement, bon, on change les ministres. Heureusement, je pense qu'on ne pouvait plus garder l'ancienne ministre de l'Éducation nationale au vu des différentes polémiques. Mmh. Mais oui, je pense que de toute façon, la politique du gouvernement ne changera pas. Et nous, ce qu'on demande, c'est de toute façon la dissolution de l'Assemblée nationale et de revenir aux urnes.
Alors, il y a eu aussi toute cette attente autour de François Bayrou. On l'a taxé d'être faiseur de roi. Il ne fait pas partie d'ailleurs de ce nouveau gouvernement, en tout cas de ce complément de gouvernement. Est-ce que l'ère Bayrou est tournée pour vous ?
Je ne sais pas s'il y a une ère Bayrou. Franchement, je pense que c'est des petits arrangements de couloirs. Nous, ce qui nous intéresse encore une fois, c'est le projet politique. Aujourd'hui, effectivement, on a un gouvernement qui mène une politique de casse sociale. Le discours de politique générale du Premier ministre, c'est un discours de souffrance générale. Mmh. C'est vraiment, on a une hausse des tarifs du gaz qui a été annoncée, une hausse des tarifs des autoroutes. On a des choses comme l'uniforme scolaire, les groupes de niveau qui sont rejetés par l'entièreté de la profession des professeurs des écoles et des profs en général. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a une politique qui est complètement déconnectée des attentes du peuple français. Et François Bayrou ou pas, je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose. Ça, c'est plutôt des arrangements de couloirs qui ne nous intéressent pas trop.
Alors, vous parlez d'une politique sociale, d'une casse sociale. On a l'hôpital qui se porte très mal. On a une France inquiète avec la montée de l'inflation, vous l'avez souligné. Puis on a aussi cette réforme de l'assurance chômage avec la suppression des ASS. Alors, les ASS, on en parle sur cette antenne depuis quelques jours. Les ASS, c'est en fait les fins de droit pour les chômeurs qui pourraient être reversés, si j'ose le terme, ces demandeurs d'emploi sous un autre régime moins attractif, celui du RSA, avec ses fameux 15 heures de travaux pour la communauté. Est-ce que pour vous, c'est un recul social ?
Mais bien sûr. Ce qu'on voit de toute façon, c'est que le gouvernement a aujourd'hui une logique de pénaliser ceux qui sont en demande d'emploi aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je ne considère pas qu'aujourd'hui, les demandeurs d'emploi, ils sont à profiter du système. On ne profite pas du système quand on vit avec 800 euros par mois. On ne vit pas bien avec 800 euros par mois aujourd'hui. Et clairement, aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est que le gouvernement, il essaye déjà pénaliser. Les demandeurs d'emploi, les faire culpabiliser aussi, les pointer du doigt au reste de la société, alors qu'en réalité, le problème aujourd'hui, ce qui se gave dans le pays, ce n'est pas les demandeurs d'emploi, ce n'est pas les demandeurs du RSA, c'est clairement les milliardaires, la grande distribution, qui n'ont jamais fait autant de dividendes, il n'y a jamais eu autant de riches aujourd'hui, et qui n'ont jamais été aussi riches dans le pays, et c'est clairement ça aujourd'hui le problème, et c'est ça qu'on pointe.
Alors, il y a eu cette crise de l'agriculture, vous parlez de la grande distribution, crise de l'agriculture qui n'est pas finie pour l'instant, puisqu'il y a encore des syndicats, on pense à la Confédération Paysanne, qui continue des actions. Est-ce qu'il faut, un petit peu bousculer ce qui a été fait jusqu'à présent depuis plus de 60 ans de PAC et de politique agricole. Est-ce qu'il faut bousculer tout ça et repenser l'agriculture en France ?
Bien sûr. Ça me paraît complètement évident. Ce que demandaient les agriculteurs, c'était tout simplement de pouvoir vivre de leur métier. Aujourd'hui, effectivement, le gouvernement, il y a eu un arrangement de coin de table avec la FNSEA qui a dit « bon, tout le monde range les tracteurs et on rentre à la maison ». Nous, on pense que c'est provisoire. Le problème des agriculteurs aujourd'hui n'est pas résolu. Leur colère était légitime, effectivement.
D'autant qu'en Europe, on le voit en Espagne en particulier, le mouvement a pris de l'ampleur.
C'est ça. Et puis, leur colère était légitime. C'est-à-dire que ils se plaignent effectivement d'avoir, pas forcément d'avoir des normes en France, effectivement nous avons beaucoup de normes écologiques, mais c'est aussi pour le bien commun d'avoir des normes écologiques. Ce qu'ils demandent, c'est qu'on n'importe pas des produits qui n'ont pas les mêmes normes écologiques dans d'autres pays. Et c'est complètement normal, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une concurrence déloyale d'autres pays, je sais pas, il y a des produits qu'on apporte de Pologne qui n'ont pas du tout les mêmes exigences écologiques que nous. Donc si on veut pouvoir faire une transition écologique, mais en concertation avec les agriculteurs, on ne peut pas non plus laisser le marché complètement ouvert. Donc nous, effectivement, on demande d'interrompre les accords de libre-échange qu'on a aujourd'hui avec d'autres pays, notamment qui ne respectent pas certaines normes environnementales, et puis qui nuisent tout simplement à notre agriculture. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est produire français et surtout acheter français.
Alors on a les accords de Mercosur, hein, ce fameux libre-échange, qui sont un peu gelés, si vous me permettez le terme, aujourd'hui au niveau de la France. Est-ce que vous pensez que la France va tenir tête et ne signera pas ces accords?
Franchement, je pense pas. Ce que fait le gouvernement aujourd'hui, ah, effectivement, il y a deux choses. Il y a le discours qu'a le gouvernement, disant oui, nous allons nous opposer, ou en tout cas être vigilants aux accords de libre-échange. Ce qu'on voit en réalité, c'est qu'au Parlement européen, le groupe La République En Marche vote complètement tous les accords de libre-échange. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et donc, c'est une trahison même vis-à-vis de la parole des agriculteurs. Nous voilà, c'est ce qu'il faut, c'est recentrer la production en France, accompagner les producteurs et les agriculteurs, accompagner dans la transition écologique. Aujourd'hui, quand on fait une transition en bio, c'est extrêmement compliqué. On a 3 ou 2 ans pour pouvoir faire sa transition sans avoir le moindre centime de subvention. Enfin, un petit peu, mais c'est ça reste quand même dérisoire. Et ce qu'il faut vraiment, c'est aider aujourd'hui nos agriculteurs qui sont, pour la plupart, qui vivent avec des seuils, avec des revenus extrêmement modestes.
Alors, la précarité, on va en parler aussi au niveau des étudiants tout à l'heure, mais je voulais vous entendre avant sur l'Europe. L'Europe, on a ces élections européennes qui se profilent. Dans 4 mois, les états-majors des différents partis se mettent en marche, vous permettrez le jeu de mots. À la France insoumise, on a senti des dissensions. Tout le monde n'est pas d'accord. Est-ce que c'est un problème pour préparer une campagne?
Alors non, je pense que sur les européennes, tout le monde est d'accord. Effectivement, nous, ce qu'on a essayé, c'était d'abord de tendre la main aux autres partenaires de la NUPES, parce qu'on avait fait, on était arrivé en tête au premier tour des élections législatives en 2022, il faut le rappeler. C'était une victoire pour la gauche, pour la gauche de rupture surtout, qui était vraiment très importante. Aujourd'hui, vraiment, le Parti Socialiste part avec Raphaël Glucksmann, Europe Écologie Les Verts avec Marie Toussaint, qui fait des meetings, on ne comprend pas trop ce qu'ils essaient de dire au peuple. Nous, on essaye toujours de parler avec d'autres partenaires.
C'est un peu dommageable le fait que chacun parte un petit peu dans son petit coin faire sa campagne.
Ah bah nous, on le regrette, enfin, c'est clair. Nous, on aurait voulu qu'il y ait une campagne commune, une liste commune, pour arriver le soir de l'élection en tête des élections européennes. Et tous les sondages l'ont montré. Si on était ensemble, on arrivait en tête au soir des élections européennes. Nous, effectivement, on continue à avoir des discussions avec d'autres partenaires. Je pense à Génération, je pense au NPA, je pense à la Rêve de Émeric Caron. On continue à parler avec des gens qui restent ouverts. Et quoi qu'il en soit, il faudra se retrouver à la fin, à mon avis.
Avec une menace, la montée du Rassemblement National, on le voit aujourd'hui, alors les sondages n'ont pas valeur, évidemment, électorale, mais on voit quand même ces intentions de vote qui montent. Est-ce que c'est quelque chose qui est de nature à vous inquiéter, à vous interroger?
Oui. Enfin, clairement, c'est quelque chose qui me... Quand je vois, effectivement, il y a eu un sondage qui est sorti hier, je ne comprends pas que le reste de la gauche se dise qu'on puisse aujourd'hui rester divisé, alors que il y a cette menace qui pèse. Au soir des élections européennes, ce qui va se passer, c'est clairement que le Rassemblement National va être en tête avec Jordan Bardella. Et je pense que ceux qui en portent la responsabilité aujourd'hui, on peut le dire, c'est Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste. Alors qu'on aurait pu arriver en tête et proposer une alternative pour le pays.
Alors, on a cette France que l'on dit à droite. Alors, je ne sais pas, on s'appuie sur des sondages. Une France qui a tendance à se droitiser un peu. On le dit aussi du gouvernement Attal, qui est un peu à droite. Est-ce que c'est quelque chose... une forme de rouleau compresseur un petit peu, cette droite qui revient au pouvoir?
Moi, ce que je vois, c'est que le gouvernement, aujourd'hui, a fait un choix. C'est-à-dire de se droitiser toujours plus pour... Alors, je ne sais pas quelle est leur logique, mais à essayer d'aller sur les terres du Rassemblement National, dire que peut-être que le Rassemblement National, comme ils sont racistes, et ben on va essayer d'être aussi racistes qu'eux, on va essayer de pointer les étrangers du doigt, et toujours, effectivement, pour ne pas parler des vrais problèmes. Le Rassemblement National, il vote avec le gouvernement contre l'indexation des salaires sur l'inflation, il vote contre l'augmentation des salaires. Donc, en réalité, c'est des gens qui sont d'accord. Ça, faut que les gens le comprennent. Le Rassemblement National, s'il arrive au pouvoir demain, la politique économique du pays, elle va pas changer. C'est leurs amis, c'est Vincent Bolloré, un milliardaire, c'est des grands patrons. Effectivement, si Vincent Bolloré soutient aujourd'hui l'extrême droite, je pense que c'est dans son intérêt aussi économique. Donc clairement, aujourd'hui, demain, l'extrême droite arrive au pouvoir, la condition sociale des gens ne va pas changer, elle va même s'aggraver. Ça, c'est très très clair. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est le meilleur marchepied de Marine Le Pen.
Alors, là aussi, on le voit. On va anticiper encore un petit peu avec les élections présidentielles. C'est pas pour tout de suite. On a encore 3 ans devant nous. Mais un sondage est sorti, pour le coup, un sondage commandé par nos confrères de CNews et d'Europe 1. Sondage qui met en avant Marine Le Pen, qu'elle soit face à Gabriel Attal ou encore à Édouard Philippe et encore plus à Jean-Luc Mélenchon. Là aussi, c'est quelque chose qui a tendance à vous énerver, à vous inquiéter, là aussi.
Ça m'inquiète, mais après, je voudrais relativiser aussi. C'est un sondage qui est commandé par, du coup, les médias de Vincent Bolloré. Bon, on se doute qu'il y a peut-être une intention aussi de véhiculer un message politique. Un sondage, c'est toujours un outil de communication politique, avant tout. Mais c'est très clair qu'aujourd'hui, il y a un risque que l'extrême droite arrive au pouvoir. Et c'est ça que je veux surtout faire passer comme message aujourd'hui, c'est que l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir ne changera rien sur la politique économique du pays. Ce sera toujours tout pour les plus riches et rien pour les plus pauvres. Et ce sera même aggravé parce que aujourd'hui, les riches ont intérêt et le capitalisme ne va pas s'opposer à l'extrême droite si elle arrive au pouvoir demain, puisque c'est dans son intérêt.
Avec une jeune génération qui se tourne vers Jordan Bardella également, est-ce que là aussi, vous inquiétez du fait que les jeunes se tournent vers Jordan Bardella? Qu'est-ce qui peut forcément les amener à se tourner vers lui?
Moi, je voudrais relativiser, parce que ce que montre le sondage, par contre, c'est que, en tout cas, les jeunes votent toujours en masse pour Jean-Luc Mélenchon, en majorité même. Aux dernières élections législatives, pareil, les jeunes avaient voté en ultra-majorité pour la NUPES. Moi, je pense que ma génération est une génération aujourd'hui qui est progressiste, qui veut un partage des richesses, qui veut aller chercher l'argent là où il est et qui veut surtout qu'il n'y ait pas de discrimination, qui en a marre de ce climat délétère, mais qui est aussi, entre autres, provoqué par les autres générations.
Alors, faut pas accuser tous les vieux quand même.
Non, non.
Là aussi, on a une forme de précarité. Alors, je parle des jeunes, on va parler de la précarité étudiante. Beaucoup de jeunes aussi sont dans la précarité, ne voient pas l'issue et se tournent parfois justement vers ces partis que sont le Rassemblement National ou Reconquête. Il y a eu des élections dans les universités, élections toutes récentes, puisque les résultats ont été connus hier. Il y a une montée quand même de l'extrême droite aussi à l'université. C'était ce qu'on n'avait pas observé avant.
Moi, je pense pas. C'est clairement aujourd'hui ce que nous ont montré les résultats des élections Crous d'hier dont vous parlez, c'est que on nous a dit oui, l'UNI, du coup, syndicat d'extrême droite et la cocarde, allaient faire une percée effectivement électorale. Ce qu'on voit, c'est que c'est pas forcément le cas. En Bretagne, ils n'ont pas de siège. Aujourd'hui en Bretagne, un étudiant sur deux a voté pour la liste Union Pirate, du coup, qui est plutôt la liste portée par le syndicalisme de gauche. L'extrême droite ne pèse pas électoralement, en tout cas dans les universités. En revanche, effectivement, l'extrême droite, depuis plusieurs mois, en Bretagne particulièrement, commence à faire des actions de plus en plus violentes. Il y a, je pense, par exemple, pendant ces élections Crous, on a un militant de l'Union Pirate, notamment à Sciences Po Rennes, qui a reçu un coup de poing de la part de militants de l'UNI. Donc, il y a effectivement ces militants qui deviennent de plus en plus violents, qui s'organisent, qui font des ratonnades, c'est quelque chose de très très violent, et le gouvernement ne prend pas du tout la mesure du danger qu'est l'extrême droite aujourd'hui. Je te rappelle quand même que c'est la deuxième plus grande menace terroriste aujourd'hui en France, qu'on a tous les jours des attentats qui sont déjoués, des attentats de l'extrême droite, et personne n'en parle. Et ça, je trouve que c'est un vrai problème de ne pas mettre le doigt aujourd'hui sur quelque chose qui est une menace pour la sécurité publique.
Alors, il y a un climat délétère. Alors, on a pointé LFI du doigt. Vous allez me rectifier si je dis des bêtises, mais on a dit, voilà, LFI bordélise l'Assemblée. LFI est toujours dans les cortèges, crie très fort. Et puis, ces actes commis par l'extrême droite. On le voit ici dans les Côtes-d'Armor et plus largement en Bretagne. On est dans un climat délétère. Qu'est-ce qui pourrait apaiser ce climat? Qu'est-ce qui pourrait advenir pour que on fasse tomber la pression en quelque sorte?
Déjà, pour apaiser le climat, je pense qu'il faut arrêter de pointer du doigt un étranger, enfin une partie de la population, les musulmans. C'est toujours ce que fait le gouvernement. Et ça, ça participe à un climat qui est délétère. Il y a aussi les médias qui ont une responsabilité qui est immense. Quand on voit, donc il y a les médias de Vincent Bolloré, effectivement, qui pointent du doigt. Mais je pense aussi, il y a des médias aujourd'hui dans le service public qui participent aussi à ce discours général. Et qui, effectivement, les gens, s'ils regardent tous les jours la télévision, ou qu'ils regalisent les médias, mais de manière totalement légitime, ils peuvent se dire qu'aujourd'hui on est dans un pays où l'insécurité est aux quatre coins de la rue, alors qu'en réalité c'est pas le cas.
Alors justement, l'insécurité, on a beaucoup pointé la gauche en règle générale de ne pas s'être approprié ces problèmes d'insécurité ou même d'immigration. Est-ce qu'il y a une erreur presque dogmatique au niveau de la gauche?
Oh non, mais la gauche s'occupe des questions de sécurité, il n'y a pas de souci sur ça. Nous, on demande le rétablissement d'une police de proximité. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, on avait le gendarme du village qui allait souvent boire des cafés avec les habitants du coin et qui tissait des liens aussi avec les habitants, qui connaissait les citoyens.
Et aujourd'hui, une fonction sociale, finalement.
C'est ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a une... globalement, il y a les bacs qui ont été mis en place dans les quartiers, notamment, et qui se comportent comme des cow-boys, qui arrivent en voiture, en dérapage, et qui ne connaissent même plus les gens, et qui les braquent dès qu'ils arrivent, qui les insultent. Donc aujourd'hui, il y a un problème de déontologie dans la police, ça c'est très clair. Et nous, pour mettre fin à ça, on veut le rétablissement d'une police de proximité, proche des citoyens, qui veut avant tout de la médiation plutôt que de la répression.
Alors il y a les problèmes des quartiers qui sont gangrénés par la drogue, pas seulement des quartiers, ça vient dans les campagnes, il faut le dire aussi. Est-ce que là aussi il faut rétablir un lien entre la population et la police pour pouvoir endiguer ces problèmes de stupéfiants qui gagnent un petit peu la société?
Oui, alors le trafic de drogue c'est quelque chose qui monte effectivement, mais ce qu'on dit nous c'est qu'il faut avant tout, plutôt qu'en s'en prendre aux dealers ou aux points de deal qui sont complètement éparpillés, il faut s'en prendre aux têtes de réseau. C'est là où sont d'abord les vrais criminels. Parce que dans les têtes de réseau de trafic de drogue, on n'a pas que du trafic de drogue, on a du trafic d'armes, on a du trafic d'êtres humains. Et c'est des choses qui sont très très graves. Et c'est avant tout là qu'il faut concentrer nos efforts. Et effectivement, il y a d'autres choses, c'est que le trafic de drogue de cannabis aujourd'hui, on peut y mettre fin en légalisant le cannabis. Demain, on légalise le cannabis, effectivement, on met fin à ça. Et je ne sais plus combien de pourcentage de Français consomment régulièrement du cannabis. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, est banalisé en France. Et je pense que pour arrêter de criminaliser les consommateurs, il faudrait arriver vers une logique plutôt de légalisation.
Alors on a la précarisation aussi dans ces quartiers, dans les campagnes également, précarisation qui amène aussi des jeunes, souvent des très jeunes même, à vouloir entrer dans ce trafic de stupéfiants pour pouvoir simplement gagner leur vie.
Oui, c'est très clair. Aujourd'hui, il n'y a pas de travail. Alors, vous l'avez dit effectivement dans les quartiers, mais aussi dans les campagnes. Il y a des gens en campagne. Le travail se fait de plus en plus rare aussi. C'est de plus en plus dur d'obtenir un métier proche de chez soi. Donc, effectivement, on nous propose de pouvoir avoir quelques centaines d'euros en faisant une ou deux heures. Pourquoi pas? Quand les gens ils sont vraiment dans la précarité. Donc, pour mettre fin à ça, il faut créer de l'emploi. Pour ça, nous, on propose effectivement de faire beaucoup de formations dans la logique de bifurcation écologique pour pouvoir lancer le pays dans la vraie transition écologique et vers notamment les énergies renouvelables, tout ça. Et cette transition écologique permettra de remettre tout le monde avec un métier et notamment d'éradiquer le fait que les jeunes aujourd'hui n'aient plus d'emploi dans les zones précarisées.
Alors il y a eu aussi cette polémique politique de plusieurs semaines autour de la commémoration du 7 octobre, commémoration des victimes du terrorisme, du Hamas. On a attendu avec... j'allais dire un œil particulier, la venue des représentants de LFI. Il y a eu beaucoup de polémiques autour de cela. Est-ce que c'était bien, finalement, qu'Emmanuel Bompard, que Mathilde Panot soient là pour cette commémoration?
Oui, forcément. Enfin, nous, on a toujours condamné les actes du Hamas. On a dit que c'était des actes terroristes.
On vous a reproché, justement, de ne pas avoir assez insisté sur ce côté terroriste.
Hein. Non, on a dit qu'effectivement, le Hamas avait commis des actes terroristes aujourd'hui. enfin c'est ignoble ce qui s'est passé le 7 octobre, et ça on a toujours été très clair là-dessus. Ce qu'on demande aussi, ce qu'on regrette, c'est que c'était un événement effectivement pour les victimes franco-israéliennes,
oui, voilà.
De l'attentat du 7 octobre. Nous, ce qu'on regrette, c'est qu'il n'y ait pas non plus de commémoration pour les victimes franco-palestiniennes, parce qu'il y a aussi aujourd'hui des Français qui meurent sous les bombes d'Israël, et je pense que pour apaiser le pays notamment et pour permettre que tout le monde puisse faire son deuil sereinement, il faudrait aussi faire une cérémonie pour les... Enfin, ça c'est la décision du président de la République évidemment, mais pour les victimes franco-palestiniennes.
Alors, cette guerre qui continue... pas très loin de chez nous, finalement, entre le Hamas et Israël, a des conséquences ici en France, avec la montée de l'antisémitisme, avec un climat là aussi très pesant. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une solution de dialogue ici en France pour que les gens, les communautés puissent à nouveau discuter ?
Oui, de toute façon, la solution pour que tout le monde discute, ça s'appelle la République. Mmh. Aujourd'hui, moi, je considère pas que les Français, on fait pas de différence entre un Français musulman, un Français juif, la religion. Quand on est Français, on s'en fiche en réalité. C'est le principe de laïcité. On regarde pas la religion de chacun. Ce qui est là important, c'est que chacun est citoyen dans son pays. Et moi, ce que je regrette, effectivement, c'est qu'il y a effectivement une montée de certains actes antisémites. Je pense à le député socialiste Jérôme Guedj, qui a reçu notamment une lettre d'insultes complètement ignoble, avec plein d'insultes antisémites, mais comme aussi la montée des actes islamophobes. En fait, tous les actes racistes, soit disant en passant, l'antisémitisme est quand même un racisme particulier qu'il faut aussi observer. Tous les actes racistes sont en montée à cause d'un climat délétère qui est provoqué par l'extrême droite et aussi par le gouvernement qui pointe du doigt par-ci par-là certains compatriotes.
Alors on parlait tout à l'heure de remaniement avec un changement important à l'éducation nationale, avec peut-être l'abandon de l'uniforme, en tout cas de ce test d'uniforme à l'école. On ne sait pas encore quelle sera la décision de Nicole Belloubet. L'éducation aujourd'hui, c'est un des piliers de la France et de la nation plus largement. Est-ce que on en fait assez pour l'éducation ? On voit aujourd'hui dans des écoles des difficultés à enseigner des matières parce que la religion vient un petit peu interférer. Est-ce que là aussi, la religion doit rester à la porte des écoles de la République ?
Oui, mais moi, ce que je vois avant tout, c'est que le principal problème que pointent les enseignants, c'est pas le problème des religions, des élèves. Le problème, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui assez d'enseignants dans les classes. Moi, je pense à ma maman, par exemple, qui est aujourd'hui professeur des écoles, qui se retrouve avec des classes de plus de 30 élèves dans des écoles rurales. Ce n'est pas normal aujourd'hui. Enfin, clairement, on forme de moins en moins de professeurs parce que déjà, le métier n'attire plus parce qu'il n'est pas assez payé. On fait aujourd'hui bac plus 5 pour commencer légèrement en dessous. Donc, ça a été augmenté. C'est légèrement en dessous de 2000 euros. Mais à un moment, c'était encore plus bas. Mmh. Enfin, qui a envie de faire un bac plus 5 avec un concours très compliqué aujourd'hui pour être payé aussi bas alors qu'on pourrait, je sais pas, pour d'autres métiers, avoir pour le même niveau de formation un salaire beaucoup plus haut. Notamment les autres pays d'Europe, les professeurs sont beaucoup mieux payés et beaucoup mieux reconnus aussi. Mmh. Parce que le fait que les professeurs soient sous-payés aujourd'hui en France fait aussi que il y a un manque de reconnaissance et effectivement de la part ça peut arriver de la part de certains parents on se dit finalement le professeur on va peut-être pas autant le reconnaître qu'on le devrait et peut-être qu'il y a un manque de respect qui vient aussi d'un manque de considération avant tout du gouvernement.
Alors il y a eu cette polémique école privée, école publique qui s'apaise on l'espère en tout cas est-ce que là aussi il faut réconcilier les deux écoles ?
Écoutez, de toute façon, l'important, c'est que chaque parent puisse faire son choix. Après, moi, je suis effectivement partisan de l'école publique. Je pense qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de cadeaux à l'école privée. On subventionne beaucoup l'école privée. C'est un sujet qui me concerne particulièrement en Bretagne, notamment. Mais il y a beaucoup de subventions qui vont à l'école privée et on n'a pas les mêmes exigences qu'on a avec l'école privée qu'on peut avoir notamment avec l'école publique. Et c'est peut-être un problème aussi d'inégalité de ce côté-là. Après, il y a les écoles privées hors contrat. Je pense à l'école de notre ancienne ministre de l'Éducation où elle a mis ses enfants. Je pense qu'il y a des problèmes avec des écoles hors contrat qui font, par exemple, de la non-mixité. Moi, je trouve ça, je suis favorable, par exemple, à ce qu'on interdise la non-mixité aujourd'hui dans certaines classes en France. Je trouve pas ça normal qu'on ait ça aujourd'hui.
Donc, à suivre ce dossier de l'éducation. Les européennes, j'y reviens parce qu'on a une guerre aux portes de l'Europe en Ukraine. Vladimir Poutine s'est exprimé hier auprès d'un journaliste un peu controversé, il faut bien le dire. Cette guerre, elle va avoir forcément un impact sur les décisions européennes, les aides à l'Ukraine, qui vont avoir un impact aussi si demain l'Ukraine entrait dans l'Union européenne sur notre agriculture, par exemple. Est-ce que l'Europe, aujourd'hui, il faut la réformer? En un mot, si demain LFI a un pouvoir de décision au niveau européen, est-ce qu'il faut la réformer, cette Europe ?
Clairement, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut réformer l'Europe déjà. Enfin, vous l'avez dit sur la PAC, hein, sur l'agriculture, ça c'est très très clair qu'aujourd'hui, il y a un gros problème avec le système de la PAC en Europe. Mais globalement, il y a aussi un problème avec la politique monétaire qu'on peut avoir en Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas souverain de notre monnaie au niveau national. C'est-à-dire que c'est décidé par la Banque Centrale Européenne, dont les règles sont définies dans la Constitution Européenne et dont... Finalement, le Parlement européen n'a même aucun pouvoir sur les décisions. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, une fois qu'on arrivera au pouvoir, il faut négocier avec les principales pays européens et surtout l'Allemagne, effectivement, puisque nous sommes principalement en binôme, sur les règles européennes pour pouvoir, effectivement, nous, ce qu'on veut, c'est avant tout faire une politique de relance économique. Et pour ça, on a besoin de remettre des sous dans la machine et nous imposerons du coup à l'Allemagne une renégociation des traités européens dont nous avons besoin pour pouvoir mener notre politique.
Alors, on a parlé tout à l'heure, on a effleuré le sujet de l'immigration. C'est un véritable sujet aujourd'hui. Comment accueillir le mieux possible les réfugiés sur le terrain européen? Comment les répartir dans les différents pays, avec des pays qui n'ont pas envie forcément d'accueillir des migrants? Est-ce que là aussi, il y a une politique européenne des flux migratoires à penser, à revoir, à imaginer?
La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la politique européenne des flux migratoires, elle est quelque peu inexistante. On a aujourd'hui l'extrême droite qui arrive de plus en plus dans des pays, notamment en Italie, et on a de plus en plus de migrants qui meurent en mer. Ce qu'on voit, c'est que nous, on a envie d'organiser l'accueil. Aujourd'hui, demain, on va avoir un réchauffement climatique qui va créer de plus en plus de réfugiés climatiques. C'est-à-dire qu'on va avoir des... Par rapport à ce qu'on a aujourd'hui comme vague migratoire, comme aiment dire les médias de Vincent Bolloré, aujourd'hui, c'est pas du tout le cas par rapport à ce qu'il va y avoir plus tard avec le réchauffement climatique.
Autant l'organiser en amont.
Mais finalement, oui, il faut organiser. On ne va pas rejeter les gens à la mer pour qu'ils finissent par se noyer et avoir des tas de cadavres sur nos plages. Ce n'est pas, enfin, déjà, ce n'est pas humain et ce n'est pas responsable en tant que nation. Donc non, il faut organiser l'accueil. Et aujourd'hui, effectivement, le problème, c'est pas qu'il y a de l'insécurité ou que les Français ne veulent pas accueillir des migrants. Le problème, c'est que les Français en ont marre du bordel parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'accueil qui est organisé. Si on organise l'accueil, on met fin au bordel, c'est-à-dire qu'on essaye de régulariser un maximum de réfugiés, en tout cas tous les réfugiés dans l'absolu, et essayer effectivement de trouver du travail, de pouvoir organiser la société de manière cohérente.
Gwenole Bourré, militante de la France Insoumise, était avec nous ce matin en direct. Il y avait encore beaucoup d'autres sujets que l'on pourrait traiter, mais on en reparlera, c'est promis. Merci infiniment d'avoir été avec nous au micro de Bretagne 5 matin. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci à vous.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.